Maxwell, vraiment superbe artiste qui s'est fait connaître au début des années 90. Il est né à Brooklyn, il a beaucoup aimé dans les années 80 toute la scène qu'on va dire un peu funk R&B avec les SOS Band, avec les Isley Brothers aussi à l'époque, Patrice Rushen ou Rolls Royce, et il va vraiment, à partir de ce côté R&B années 80, composer son style très atypique et qu'on va avoir du mal un peu à justement classer quand il va sortir son premier album en 1996. Est-ce que c'est du R&B? Est-ce que c'est de la néo-soul peut-être? Est-ce que c'est du jazz? On ne sait pas. Et c'est ça qui est fort avec vraiment Maxwell, c'est que bah là, il a bossé avec Leon Ware, il a bossé avec Wawa Watson, et ils vont réussir à sortir ce premier album Urban Hang Suite en 1996, qui vraiment est inclassable et qui va le mettre dans un nouvel espace qui est assez incroyable. Mais là on va s'écouter un morceau tiré de son deuxième album, qui est un album un peu comme tous ses albums d'ailleurs, un peu à thématique, on va dire, avec pas mal de concepts à l'intérieur. Et cet album s'appelle Ambria. Et tous les morceaux commencent par un titre et deux points quelque chose. C'est assez fou. Et là, justement, on va s'écouter un de ces morceaux assez long et assez cool qui s'appelle Submerge Till We Become The Sun. C'est assez profond. Tout est écrit et produit par Maxwell. Donc, c'est de la grande musique. On va s'écouter tout de suite. Et ça va continuer jusqu'à 12h45. Full Maxwell ensemble. Pour ce midi, on y va, c'est parti.
Till we become
l'instant, c'était Luxury Coco Chour de Maxwell sur Boom.
Autoradio.
Autoradio. Avec Captain Nemo.
Vous êtes bien dans Autoradio, on n'écoute que des gros classiques. Aujourd'hui, on est sur une spéciale Maxwell, cette légende de la néo-soul, légende de Brooklyn, New York, qui s'est fait connaître dans la scène des clubs new-yorkais, jazz, soul, au début des années 90. Là, on s'est écouté deux morceaux de son album Embria en 1998, album un peu concept, qui va vraiment dans plein de directions différentes, toujours très chaude, très soul, jazz, R&B, un peu alternative, acid jazz, quelque part, ce qu'on appellera la néo-soul. Le morceau là, c'était Luxury Coco Chour, et il y a vraiment beaucoup d'influences différentes dedans. C'est ça qui est hyper intéressant avec Maxwell, c'est que d'un album à l'autre, on peut retrouver énormément de choses, et sa voix, bien sûr, sa voix est incroyable, tessiture assez folle, difficile à classer aussi. C'est pour ça que il a un peu une carrière à part, Maxwell. C'est plus facile de parler de D'Angelo, d'Eric Abadou, voire de Raphaël Sadiq ou de Jill Scott. Maxwell, ça peut être un artiste presque pop R&B sur certains morceaux, et d'autres c'est presque du jazz. Vraiment, c'est assez incroyable. Là, on va s'écouter justement un morceau de son album Nah en 2001, morceau plus up-tempo que j'aime beaucoup, qui s'appelle Get to New York, qui sera un gros single de sa carrière 5-6 ans après ses débuts. Donc grand morceau qu'on s'écoute tout de suite, Get to New York de Maxwell sur Move.
Baby, longing to know ya, feeling Love, I'm not.
l'instant, c'était Bad Habits de Maxwell sur Move.
Autoradio.
Autoradio. Avec Captain Nemo. Move.
Vous êtes bien dans Autoradio. On est en ce moment sur une spéciale Maxwell. Tout le midi, on le passe ensemble. Et on écoute le meilleur de cette légende de la néo-soul qui a presque lancé ce style musical. On peut dire aussi que Sade, l'album Kiss of Life, à cette période, vraiment a été très important dans la conception un peu de ce style musical qui est la néo-soul dans les années 90, ce mélange de R&B, de hip-hop, de funk, alternative funk, un peu contemporaine, et de jazz funk, soul jazz. Et Maxwell arrive très vite dans cette composition. On peut citer aussi les Anglais comme Jamiroquai, comme Brand New Heavies, comme Galliano. Mais Maxwell, en 96, va rebattre complètement ce style et va mettre encore presque une nouvelle façon de faire et une façon très personnelle qui n'a pas été trop reprise par d'autres. On peut pas dire qu'il y a d'autres artistes qui ont vraiment fait du Maxwell, c'est ça qui est fou je trouve. Moi presque je le mettrais du côté d'un Lenny Kravitz dont on a du mal à savoir si c'est du rock, du R&B, des fois de la pop, c'est assez fort. Et Maxwell il a un peu ce côté là aussi dans l'énergie, dans la façon de chanter et dans la façon de voir la musique. Là on vient de s'écouter le morceau Bad Habits qui est tiré de son album Black Summer's Night qui lui sort en 2009, donc plus de 10 ans après son début de carrière. On a un peu une nouvelle façon de voir la musique, on arrive à l'orée des années 2010. C'est un morceau qui va être vraiment très plébiscité aussi et sur cet album qui va fonctionner. On va s'écouter justement un autre morceau de cet album juste après qui s'appelle Pretty Wings. C'est des morceaux qui ont encore remis Maxwell sur le devant de la scène c'est avec encore un nouveau style, toujours la même formule mais renouvelé et vraiment dans sa façon à lui. C'est presque du proto The Weeknd. Il a un côté comme ça en plus chaleureux, j'ai l'impression. C'est moins froid, moins Toronto, plus Brooklyn en fait. Et on va s'écouter ça, vous allez voir un peu toutes les références qu'on peut retrouver dans la musique ensuite. Maxwell a été une grosse source d'inspiration. Pretty Wings de Maxwell tout de suite sur Move, c'est parti. Time will bring the real end of our trial. One day there'll be no remnants, no trace, no residual feelings within you. One day you won't remember me. Your face will be the reason I smile, but I will not see what I cannot have forever. I'll always love you. I hope you feel the same. Oh, you played me dirty. Your game was so bad. You tore when my affliction had to fill out my prescription. Found the way I'ma be. I had to set you free.
Pretty wings all around.
C'était Fistful of Tears de Maxwell sur Move.
Autoradio. Move. Avec Captain Nemo.
Vous êtes bien dans Autoradio, on est sur une spéciale Maxwell pour finir cette matinée ensemble. Maxwell, grosse légende de la néo-soul des années 90. des magnifiques albums de 96 à 2009. Là, c'était encore l'album Black Summer's Night. On vient d'écouter ce morceau Fistful of Tears, un morceau qui a bien cartonné aussi dans les charts R&B, qui s'est retrouvé 11e carrément. Il a vraiment été très plébiscité. Cet album est sûrement un des plus connus de Maxwell. À la même période, il fait aussi un gros single avec Alicia Keys. Mais ce qui est fou avec Maxwell, c'est qu'il a aussi peu de featuring. J'ai cherché un peu à mettre des morceaux pour voir s'il y avait des featuring. Il a fait un featuring avec Nas, qui est passé un peu sous les radars. Un autre avec Alchemist, très bizarrement, et Prodigy. Donc il avait ce côté très new-yorkais en fait, de bosser avec vraiment des artistes très locaux, de Queensbridge, Alicia Keys, très New York quoi. Mais il a fait très très peu de collaborations avec les mêmes styles que lui. Il a même pas de grosses collabs avec des D'Angelo, avec des Mary J. Blige. Ça aurait pu, finalement il y a très peu, il y a juste Alicia Keys. Donc c'est vraiment un musicien à part, où on connaît peu de choses sur lui que sa musique, et franchement c'est assez impressionnant d'avoir une carrière aussi longue et un impact aussi important avec aussi peu d'informations finalement, à part ce qu'il a réussi à donner. Et justement, on va finir la boucle après donc l'album Black Summer's Night, qui est un peu un de ses derniers albums forts en 2010, 2009-2010. On va retourner au premier album en 1996, le fameux Urban Hang Suite, qui a été l'album qui l'a mis vraiment au milieu du jeu, quoi, qui a été vraiment important, où il a presque inventé un style musical. Et on va s'écouter le morceau Something Something, qui a été un gros single de cet album et qui a aussi une seconde vie, car il a été le single de la BO du film Love Jones en 97. Donc ça va être aussi une constante, c'est que Maxwell va avoir pas mal de morceaux dans des BO, parce qu'il a ce style très cinématographique de faire de la musique très instrumentale et très chaude, qui va vraiment loin. Là, vous allez l'entendre tout de suite sur ce morceau Something Something. Juste après, on se réécoutera Temporary Night. Si vous étiez avec nous depuis quelques minutes, quelques heures, vous avez déjà entendu ce morceau, grand hit encore de Maxwell. Merci à Pierre à la technique, on a passé une superbe matinée ensemble. Écoutez Maxwell, continuez à creuser cet artiste incroyable. Je vous dis à demain matin à 9h, on aura encore plein de musique à écouter et une spéciale avec un groupe mythique que j'adore, Bone Thugs and Harmony. En attendant, écoutez de la bonne musique, renseignez-vous, reprenez plein d'histoires et racontez-les autour de vous, et surtout kiffez la vie, passez du bon temps. Je vous dis à demain, salut. All I wanna know is if it's cool.
We can do a little something, something.
A little something, something.
Make room with you.
Oh, baby.
So we can kick a little something, something.
Even though she pays me no attention, all I wanna show is my affection. Lose myself inside her ebony. She ain't even checking me. Oh, yeah, it's cool, babe.
We can do a little something, something.
A little something, something. Sugar chocolate, something, yeah. Since the weather's surfing,
A temporary night for two. On se retrouve dans moins d'une minute pour Passion Discrète avec le rappeur Medine. Il nous parlera de sa passion pour le cinéma. A tout de suite sur Move.
Move Radio.
Move. La semaine prochaine, Move vous offre votre iPhone. Vous offre votre iPhone. Entre 6h et 9h, dont On n'est pas fatigué, tenez-vous prêt à appeler pour vous inscrire au tirage au sort de vendredi. La semaine prochaine, gagnez votre iPhone. Sur Move.
Move présente la 5e édition de Rappeuse en Liberté. Le tremplin dédié aux artistes féminines, parrainé cette année par Medine. Vous rêvez de vous produire au Mama Music and Convention et aux Ardentes, d'être conseillé par les plus grands pros, d'enregistrer en studio, de recevoir un soutien financier et bien plus encore. Inscrivez-vous à Rappeuse en Liberté et tentez de faire décoller votre carrière. Prête à plier le game? Rendez-vous avant le 22 juin sur rappeusenliberté.com. Plus d'infos sur move.fr.
Tous les week-ends, 12h45, Passion Discrète avec Bintili.
Mon invité aujourd'hui dans Passion Discrète, c'est le rappeur Medine.
Corps, comme reconnaître les torts de l'art, comme ton rapport préf est un grand homme. Même quand j'ai l'arc, les gens foncent la porte. Qui note Centaur, c'est le nom du 9e album. Emigrami, Oscar et Tony, que le game m'appelle Icode.
C'est en entendant sa carte blanche sur le cinéma dans le cadre de la L2P Convention il y a 3 ans que j'ai eu l'idée de créer cette émission. Il était donc évident que je reçoive Medine pour qu'il nous dévoile les coulisses de sa culture cinématographique. On s'est retrouvé chez Potemkin, boutique cinéphile qui est aussi un café et une librairie dans le 10e arrondissement de Paris.
Mais qui vois-je ? Medine est là !
Salut.
Comment ça va ?
Ça va, tu vas bien ? Désolé pour le retard.
Il y a pas de souci, j'ai trouvé tes plus grands fans, des jumeaux. Salut. Bonjour ! Comment ça va ? Cheesedon est là. Medine, on est chez Potemkin, magasin de DVD. Pourquoi on s'est donné rendez-vous ici ?
Parce que j'ai une passion discrète qui est le cinéma depuis toujours. Là, directement, je vois Requiem for a Dream. Et il ne me plaît pas que pour la qualité du scénario, de la mise en scène, de la photo. Il me plaît pour la BO aussi, ce film. Le morceau, là, le main title, là. Je l'utilise tout le temps en story, tu sais, quand je mets un espèce de passage un peu dramatique pour me moquer des enfants, j'utilise ce titre-là.
Est-ce qu'on a autre chose ? On se balade ?
Ouais, avec plaisir. Mais le Baron de Munchausen, ça fait genre 30 ans que j'ai pas vu ça.
Raconte-nous.
Rétrospectivement, ça doit être un gros nanar. Mais moi, ça m'a marqué dans mon enfance et j'ai genre 4-5 nanars comme ça qui sont ultra marquants. J'ai vu ça, j'étais enfant. Dans mon esprit, c'est un mélange de L'Histoire sans fin et de Hook, La Revanche du Capitaine Crochet.
Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Les souvenirs ?
Je vois Sylvester Stallone. Hein.
Carter.
Ouais, mais dans un mauvais film. Je le préfère dans beaucoup d'autres films. Hein. Moi, je suis très fan de Stallone. Les Rocky, les Rambo, tout ça. Mais ces derniers temps, Monsieur Stallone est devenu les yeux, les oreilles et la bouche de Donald Trump. Du coup, je me sens un peu en rupture avec ce qu'il incarne et ce qu'il représente aujourd'hui. Ça fait partie du processus de devenir adulte. Tu sais, quand tu brûles tes idoles.
De tuer le père.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on a de beau ?
Malcolm X, Spike Lee.
Denzel Washington sur la pochette du DVD.
Ça, c'est masterpiece. J'ai appris tellement de choses dans une conférence récente sur ce film, les coulisses de ce film. Spike Lee n'arrive pas à boucler le budget de ce film. Du coup, il appelle tous ses copains afro-américains de l'époque, Bill Cosby, Michael Jordan, Magic Johnson. Et comme il y avait une rivalité Jordan-Johnson à cette époque sur les parquets de la NBA, Jordan lui dit « Il t'a donné combien, Johnson ?» Moi, je vais surenchérir. J'adore cette anecdote.
Moi aussi.
Il y a deux Kubrick côte à côte là. Celui-ci, Orange Mécanique, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est fou comme c'est une critique de la société anglaise d'époque et ce que ça charrie en termes de transgression, de regard de la bourgeoisie vers la jeunesse. Et j'avais pas cette lecture moi quand je le regardais plus jeune. Je voyais vraiment que la violence du truc. Et il était interdit au moins de 16. Du coup, j'avais pas le droit de le regarder, mais je le regardais quand même. Et Full Metal Jacket, autre Kubrick, c'est vraiment un film de guerre. Comme on n'en fait plus. Quand tu regardes ça, t'as l'impression que c'est à la gloire de l'armée US et de ce qu'elle a pu faire dans le conflit vietnamien. Pas du tout. C'est vraiment un film antimilitariste qui montre les syndromes post-traumatiques, la violence du corps des armées, comment c'est viriliste, comment c'est masculiniste. C'est vraiment un bijou d'analyse sociétale.
Passion discrète.
Move. Ta passion discrète, c'est donc le cinéma. Ça vient d'où? Je crois qu'il y a une histoire de VHS avec ton oncle.
Oui, j'ai un tonton qui avait une espèce de bibliothèque secrète qui dupliquait tous les films du vidéoclub avec double magnétoscope. Et du coup, il alimentait tout le quartier en films. Nous, il lui déposait un sac le dimanche avec genre 7-8 cassettes qu'il récupérait l'autre dimanche. Ça lui donnait l'occasion de venir passer une tête à la maison. Mais nous, il nous régalait parce qu'on découvrait des films sans se soucier des pictogrammes et quoi que ce soit.
Tu te souviens de quel film à cette époque?
Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Les Goonies.
Ils se sont surnommés Les Goonies. Ils ont découvert une légende, mais ils ne sont pas seuls.
J'espère que c'était ton estomac.
J'ai un souvenir très clair des Goonies. La première fois que je le vois, ça me traumatise tellement c'est masterpiece pour moi. Willow, tous les films fantastiques, d'aventure comme ça, là, mon père me collait souvent devant.
T'avais quel âge à cette époque?
Moi, j'avais 6 ans, 7 ans. Mais j'ai des souvenirs très clairs des premiers films que j'ai vus.
Ton père était cinéphile aussi?
Ouais, mon père adorait le cinéma, il l'adore toujours. Il regarde sur son IPTV aujourd'hui, ça faut pas le dire.
Donc ça continue de truander les cassettes, maintenant ouais. L'IPTV.
Je crois que c'est plus la piraterie que l'amour du cinéma, en fait, au final. C'est parce qu'on a les films gratuits. Il regarde quelques classiques, et même des films récents. Mais oui, tout ça vient de lui.
Et ta sœur s'appelle Leia. Ouais. Et c'est pas pour rien, on veut l'anecdote.
Ma sœur s'appelle Leia, comme la princesse Leia de Star Wars. Je crois qu'il y a un général Medine dans Star Wars. Donc tout ce storytelling créé autour de moi, que je serais un islamo-gauchiste dans mon ADN, etc. Je suis désolé de débunker aujourd'hui, c'est juste parce que mon daron est fan de Star Wars et qu'il va chercher ses blases d'enfants dans la trilogie de George Lucas.
Quel souvenir toi tu as de Star Wars?
L'Empire contre-attaque, le premier Star Wars que je vois. Et je commence, je pense, Star Wars avec le bon film. Parce que déjà, c'est une masterclass ce film. Il y a des rebelles dans la neige qui se battent contre l'oppression de l'Empire, etc. Et tout de suite, la lecture politique m'aspire directement. Alors qu'on pourrait dire non, c'est des combats de vaisseaux spatiaux, etc. Et les yeux d'un enfant doivent voir ça. Non, vraiment, moi, le côté rébellion, on va se battre contre un super méchant qui s'appelle Dark Vador et toute son armée, ça m'aspire direct.
Est-ce que tu te souviens de ta première fois au cinéma?
Non, je m'en souviens pas. Les récits de famille disent que c'était un dessin animé. J'ai un souvenir qui est proche de cette première fois, c'est Les Visiteurs avec mon père et Terminator 2 avec une cousine et Un Indien dans la ville aussi. Ça, c'est très clair que j'ai été voir ces trois films au cinéma. Mais le premier, je m'en souviens plus. J'aime aller au cinéma. Je suis même genre un bourgeois du cinéma. J'adore les salles premium. C'est les salles où tu peux un peu t'allonger. Ce sont des places très chères, il faut le dire. Et c'est très relou quand tu vas en famille parce que tu t'en sors pour des sommes faramineuses. Mais j'adore ce côté confort où je me mets vraiment en immersion quand je vais voir un film. J'aime beaucoup aller au cinéma de façon confortable.
Passion discrète avec Bintili Diallo.
Si tu dois nous donner trois films qui sont un peu tes films de chevet.
Mon film favori de toute ma vie et jusqu'à ma mort certainement, c'est Les Évadés.
Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison d'Amérique. Je suis le type qui peut tout avoir. Les cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc.
Que je regarde au moins une fois par an. Tout ça vient d'un livre de Stephen King. C'est plusieurs nouvelles, mais dedans, il y a une nouvelle qui s'appelle Rita Hayworth. c'est le nom du personnage qui est en poster dans la cellule de Andy Dufresne dans ce film. Je vais rien spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ce film parce que c'est important, mais j'adore, moi, quand on donne le nom d'un film, d'un essai, d'un détail du film, et tu crois que c'est un détail qui n'a pas vraiment de sens, et au final tu te rends compte que c'est le cliffhanger du film, quoi.
Ça, c'est le premier. Est-ce qu'il y en a deux autres?
Genre Hit, c'est Michael Mann, je crois. Je le regarde une fois par an. Je découvre les dialogues à chaque fois que je le revois.
En deux mots, Hit, ça parle de quoi? Al Pacino, Robert De Niro?
Ouais, Val Kilmer perd son âme. C'est l'histoire d'une équipe de braqueurs qui sont des amis, qui sont torturés par ce qu'ils font, parce qu'ils ont envie de décrocher au plus vite. Ils veulent retourner à leur vie de famille pour certains, sauf le starring qui est Robert De Niro, où lui, il est prêt à lâcher tout ce qui peut le mettre en péril en 30 secondes, montre en main. C'est comme ça qu'il le dit là dans le film. Et donc, on suit la course-poursuite entre Pacino et De Niro pendant tout le film. Et c'est masterclass de jeu, c'est masterclass d'impro. J'ai découvert que la scène de discussion qu'il y a entre Pacino et De Niro, c'est de la pure impro. Et ils ont gardé ça à l'image. Je trouve ça fou, moi.
Et admettons que tu m'es coincé et que moi, j'ai pas le choix. Parce que jamais je ne te laisserai me barrer la route. Ne crois pas que j'hésiterai. Pas une seconde.
Le dernier?
Ce serait un film d'aventure, parce que j'aime trop les films d'aventure. Les Goonies à égalité avec Hook, La Revanche du Capitaine Crochet.
Je ne sais donc pas qui tu es.
Moi, je crois en toi.
Moi aussi, je crois en toi.
Je crois en toi, Peter.
Mais un événement va lui faire reprendre son envol. Dustin Hoffman est le Capitaine Crochet et Robin Williams le valeureux Peter Pan.
Peter le Vengeur est de retour.
Qui est aussi un nana absolu. En tout cas, le pire des Spielberg, selon la critique. C'est tellement un film de cœur pour moi que je kiffe un nana officiellement.
Je sais que toi, tu es team version française et pas team VO. Pourquoi?
Parce que j'ai besoin d'entendre l'intonation, l'émotion. Et dans ma langue, dans la langue de Molière, dans celle que je comprends, en fait. Le fait que je sois un piètre anglophone, ça me coupe de trop de choses. Donc j'ai vraiment besoin que tout soit intelligible, que même les onomatopées, ça soit dans ma langue. J'ai besoin de ça. Les puristes disent que c'est un blasphème, ce que je dis. Mais moi, je crois qu'il y a des très bons doubleurs. Il y a des gens qui sont très inspirés et qui sont des acteurs et qui jouent aussi bien les émotions que ceux qui les incarnent à l'image.
Si tu dois me donner ton actrice préférée et ton acteur préféré?
Il fut un temps, c'était Angela Bassett, une afro-américaine qui joue dans Malcolm X, dans Black Panther, etc. Mais ça, c'était mes yeux d'adolescent là, qui parlaient. En ce moment, Jenna Ortega, c'est incroyable. Genre Demi Moore là dans ce Substance, c'est incroyable. Et en France, je te dirais, c'est genre Sandrine Kimberlin, Virginie Efira, Laure Calamy, Camille Cotin. Non, la France, il y a des actrices.
Et en homme,
Denzel Washington, c'est incroyable. Tahar Rahim. La première fois que je vois un prophète, je le pull up, c'est-à-dire que je le regarde deux fois de suite, tellement je suis traumatisé par la presta dans un prophète.
Jusqu'à 13h. Passion discrète.
Move. Est-ce que toi, t'as des envies de cinéma? Parce qu'on t'a vu dans le film d'Inès Reg, dans le film de Kéron. Est-ce que t'as envie de pousser ça ou pas?
Non, là, vraiment, je répondais à des commandes de mes copains qui me disaient « J'aimerais bien que tu joues à un espèce de juge pour contrecarrer un peu tout ce qu'on dit sur toi dans le débat public. Ce serait grave gaulerie. » Donc, Inès me fait cette passe D et je prends vraiment du plaisir à le faire avec elle et on rigole tellement. Kéron, c'était une commande... En fait, j'aimais le propos du film. Parce que
Dans Mauvaise Herbe,
parce que le rôle que j'y incarne, c'est un espèce de barbu qui poursuit un gosse et qui est un espèce de tortionnaire. Mais par contre, ça sert tout le propos du film. Il a réussi à me séduire avec une phrase de Victor Hugo, Kéron, en me disant « Tu connais la phrase de Victor Hugo sur Mauvaise Herbe ?» Je dis non. Et il me dit « Il n'y a pas de mauvais homme, il n'y a pas de mauvaise graine, il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Je dis « C'est bon, je signe où ?» Après, j'ai pas... envie de faire du cinéma. En tout cas, je me donne pas le cadre. Je respecte tellement cette discipline. Je trouve que les acteurs incarnent tellement les personnages que c'est un travail avec une culture et qu'on peut pas être arriviste dans ce domaine juste parce que t'as tourné 4 clips devant la caméra et que tu penses que tu sais jouer.
Est-ce que tu dirais que le cinéma t'a inspiré pour ta musique, justement, pour tes clips, pour créer une imagerie?
Ah ouais, c'est genre la source d'inspiration première même. En fait, parfois, je fais des morceaux juste parce que j'ai envie de les mettre en image ou juste parce que j'ai envie de les ramener sur scène pour créer cette émotion que le cinéma, lui, crée, que le théâtre, lui, a dans son ADN.
Est-ce que tu dirais que le cinéma a changé ta vie?
Ouais. Le cinéma, c'est un éducateur. Et moi, ça m'a totalement éduqué. J'ai pris des virages dans ma vie à cause de certains films. Par exemple, la série La Servante Écarlate, ça me remet en question sur mes propres schémas de reproduction du patriarcat. Et à quel moment, en fait, ce système me profite, me bénéficie et fait en sorte que le questionner, c'est inconfortable. Les dystopies arrivent à faire ça sur moi.
Est-ce que tu as transmis cette passion à tes enfants?
Ouais. Je suis un forceur de cinématographie. Je suis vraiment le gars qui assoit ses enfants et qui dit « Là, je vais vous montrer un chef-d'œuvre. » Parfois, ça marche. Parfois, ça floppe. Et ils me disent « Il est éclaté, ton film. » Ou alors vice-versa. Des fois, c'est eux qui me disent « Eh, ce film-là, ça tue, cette série, elle tue. » Parfois, ça match. Et souvent, j'aime bien les taquiner en disant « Mais non, c'est nul, ça. Comparativement à ça que moi, j'ai connu, c'est sur le même sujet. Regarde ça, après, tu reviens me voir. » On a vraiment ces débats-là en famille.
Pour résumer, ta passion discrète cinéma, elle est où dans ta vie? C'est un peu tous les jours? C'est le dimanche soir?
Le lundi, c'est un peu mon jour férié, moi. Je suis un artiste. En général, je suis en concert le week-end. Et le lundi, les enfants, ils sont à l'école. Et c'est le moment où tout est un peu fermé, toi tu fais redescendre la pression. Là, c'est vraiment le moment idéal pour regarder un film pour moi.
Putain, j'aime trop les cuivres, putain, j'aime trop le peura. J'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des points d'aura. Je sais que me battre, je ne sais que les battre, je ne sais que les bastonner. C'est pas que du rap, c'est gros cuir rap, et toi tu rappes pas dans les temps.
Merci à Medine d'être passé dans Passion Discrète. Il vient de sortir son EP Stentor Acte 1. L'acte 2 va suivre. Il jouera dans quelques festivals cet été, sera partout en concert près de chez vous à la rentrée.
C'est le premier de la liste. 90 BPM, mon cœur bat sur le rythme. Et même quand je pleure en rime. La cérémonie des flammes se termine à minuit. Mais le mariage au rap, c'est pour la vie. Faut pas que tu t'inquiètes. Si t'es quelqu'un dans la fame, au canon silencieux, je te tête. On cuira dans la tête, pas là pour être un même ou une traîne. 20 ans de carrière et crois-moi, je vais pas lâcher. Si je marchais sur l'eau, les journalistes diraient je sais pas nager. Quand je dis Alhamdoulilah, ces connards me disent à tes souhaits. T'as mis 100 ans à pousser, je vais mettre 20 minutes à te scier. C'est que du rap conscient, t'as jamais le compte en banque en excédent. Y'a que Michael Jackson qui est passé de pauvre et noir à riche et blanc. Y'aura bien plus de gens quand on va me pendre qu'à mon couronnement. Veuillez laisser le rap en sortant, comme il était propre en rentrant. Merci.
Vous êtes connecté sur Move.
C'est le Kiki Show.
Joaquin Rap. Joaquin Rap. Up in the nasty girl. Nasty. Up in the nasty.